Punky va vous causer. Punky va vous parler.
Et salut tout le monde, bienvenue. Bon, pour ma part, moi j'ai plutôt l'habitude d'écrire les vidéos à l'avance et pas de les raconter comme ça au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que vous serez indulgents avec moi parce que je suis un peu novice dans la discipline. Et comme vous l'avez sans doute lu dans le titre, on va parler d'un jeu qu'il est impossible d'acheter aujourd'hui. Alors des jeux comme ça, impossibles à acheter aujourd'hui, qui ont été retirés des stores pour des histoires de droits musicaux ou autres, bon, on en connaît. D'ailleurs, là, j'ai un très bon exemple qui s'appelle Driver San Francisco. Bon, c'est un excellent jeu. Le truc, c'est qu'il y a la soundtrack, je crois, qui est licenciée. Ça a été retiré de tous les stores en ligne, y compris Steam. Et le seul moyen de l'avoir aujourd'hui, bah, c'est de le trouver d'occasion. C'est con parce que c'est un bon jeu. Vraiment, c'est un jeu que je trouve plutôt sympa. Surtout en termes de jeu de voiture solo scénarisé, il n'y a pas grand-chose qui existe. Et celui-là, il fait super bien le taf. Bon, bah, dites-vous bien que le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, il est sorti. Mais ça va être très difficile de le trouver, même en occasion. Alors que pourtant, bah, c'est pas un petit jeu, hein. Je peux même vous dire que c'est un jeu à licence Marvel. Ah, là je sens que j'ai réussi à titiller votre curiosité. Lâchez votre souris, installez-vous bien au fond de votre siège, parce que je vais vous raconter l'histoire de X-Men Destiny. Alors faut savoir que cette histoire, elle commence avec un studio dont vous connaissez sans doute le nom. Ce studio, il se nomme Silicon Knights, et vous le connaissez sans doute pour un de ces deux jeux GameCube, dont on va parler évidemment. Mais il faut savoir qu'à la base, Silicon Knights, ils sont à l'origine de la série des Legacy of Kain. Et là vous dites, Punky, qu'est-ce qui t'arrive? T'es complètement défoncé, Legacy of Kain, c'est Eidos et Crystal Dynamics. Et alors légalement, oui. Mais il faut savoir qu'à la base, c'était surtout un projet de Silicon Knights. C'est Silicon Knights qui a fait le premier jeu de la série, Legacy of Kain, mais il faut savoir que Crystal Dynamics était aussi présent en tant qu'éditeur après le petit succès de Gex. Et si on en parle, bah c'est que évidemment, après la sortie du premier jeu, ils ont commencé à se disputer la paternité de la licence. Jusqu'à ce que Crystal Dynamics mette fin à la dispute, simplement en commençant à développer le prochain jeu de la série, qui était donc Soul River. Donc là, Silicon Knights, pas con, ils se disent on va leur faire un procès. Et même à l'époque, ils disent que c'était eux qui avaient eu l'idée carrément de Soul River aussi. Et c'est vrai que cette histoire, c'est pas de ouf cool pour Silicon Knights. Et du coup, bah, ce procès, il aura pas vraiment lieu parce que Crystal Dynamics, ils vont se faire racheter par Eidos. Eidos de Tomb Raider, hein, donc faut quand même, à l'époque, c'est un gros truc. Et du coup, bah, vu qu'en face, t'as un géant, il y a quand même de quoi se démoraliser, voire se dégonfler. Donc là, forcément, Silicon Knights, ils partent mal, ils lâchent l'affaire Legacy of Kain, et ils se disent, bah, on va plutôt bosser sur ce vieux projet qui avait jamais abouti et qui traîne dans les cartons depuis des années. Donc ce projet, c'est un projet d'envergure qui vont commencer à bosser pour la PlayStation. C'est un gigantesque chantier prévu pour tenir sur 4 CD avec des cinématiques. Là, on est en 1999 et le problème, c'est que la génération 128 bits, elle arrive à fond les ballons. Donc là, ils font comme tout le monde fait, hein, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent et ils se disent, bah, ce super projet ambitieux de la mort qui tue, on va plutôt essayer de l'adapter pour la prochaine génération de consoles, et donc ils commencent à faire des démos techniques. Et là, coup de théâtre, effectivement, leur projet, il tue tout. Effectivement, Nintendo les repère dès les années 2000 et ils vont leur dire, bah, venez faire des jeux pour la N64. Et évidemment, fort du succès de Legacy of Kain, Nintendo veut des jeux un peu plus matures que ce qui se passe actuellement sur la console. Ils vont donc lâcher leur projet de la mort qui tue, donc ils sont convaincus que c'est un futur chef-d'œuvre, pour bosser sur des exclus N64. Et notamment sur Eternal Darkness, qui passera donc de la N64 à la GameCube et qui sortira, hein, qui est donc un excellent jeu. Alors, j'ai pas eu jeu à l'époque en 2002, hein, mais j'y ai joué depuis et c'est vrai que c'est un survival horror qui est pas commun, qui propose des idées quand même qui sont relativement intéressantes. C'est pas non plus un méga chef d'œuvre, mais je trouve que dans la gamme survival horror, ça fait partie de mes préférés, sachant que je suis quelqu'un de plutôt difficile en survival horror, j'aime pas trop ça à la base. Là, ça m'avait quand même vachement convaincu. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu, y a beaucoup de gens qui en ont parlé bien mieux que moi, donc si vous n'y avez pas joué, testez-le, voilà, ça vaut le coup. Bon, après ça, l'anecdote, vous la connaissez, mais Kojima va demander à Nintendo pour faire un MGS sur GameCube. Nintendo, eux, bah, ils ont Silicon Knights sous la main, donc ils vont leur demander directement de le faire, et Silicon Knights finira donc par être mis en relation avec les studios de Kojima pour faire Metal Gear Solid The Twin Snakes, qui est un super remake. Voilà, c'est un peu la hot tech de cette vidéo, mais moi je trouve que ce remake est vraiment cool. À l'époque, les gens ont juste vu MGS1 avec le moteur de MGS2, sait ce que c'est. Il y a d'autres gens qui ont moins aimé les cinématiques refaites par un autre réalisateur. Moi, personnellement, j'ai découvert Metal Gear Solid avec ce jeu. Et je trouve que pour faire MGS 1, qui est quand même un jeu qui a foutrement vieilli, bah le moteur de MGS 2, il est quand même un peu plus digeste que le moteur du jeu PS1. Donc voilà, après, c'est les goûts de tout le monde. Moi, personnellement, c'est dans mes MGS préférés. D'ailleurs, ça sent, hein, le truc a été fait avec amour. Silicon Knights, ils ont toujours dit qu'ils étaient ravis de bosser sur une grosse licence comme ça. Et vous allez vite comprendre que bah ça, c'était un petit peu la dernière heure de gloire de ce studio. Bref, on est en 2004, et après Twin Snakes, bah le téléphone, il sonne pas vraiment. Non pas que le jeu se soit ramassé, mais bon, quand même, surtout au niveau des critiques. Puis un autre problème, c'est Denis Dayak, c'est le patron de Silicon Knights. Et Denis Dayak, eh ben, il a tendance à un peu trop ouvrir sa bouche dans les médias. En fait, ce qui va se passer, c'est que pour une interview, je crois, pour Nintendo World, il va un peu parler de la relation de son studio avec Nintendo, et notamment la comparer à celle que Nintendo a avec d'autres studios. Et globalement, à demi-mot, il va dire que, par rapport à d'autres studios habitués à travailler avec Nintendo, Silicon Knights serait indispensable, voire indissociable, de Nintendo. Et ça, Nintendo, ils vont pas aimer. Et là, le téléphone sonne enfin chez Silicon Knights. Ce sont les employés de Silicon Knights qui se réveillent.
Allô ? Oui, on n'avait pas un projet dans le placard ? Un vieux truc, là, qu'on voulait ressortir ou je sais pas quoi ? Alors oui, ne quittez pas, je vous retrouve ça. Ah oui, effectivement, bah on l'a, le fameux projet super méga ultra ambitieux, là, oui, on l'a, il est toujours là.
Et enfin, ils vont pouvoir commencer à bosser sur leur projet de génie. Leur vieux projet deviendra leur arme secrète, et c'est décidé, ils vont faire le pinacle vidéoludique ultime de la GameCube. De la Xbox 360. Bon alors, 4 ans de développement elle plus tard, le jeu sort et il s'appelle To Human. Donc ce jeu, vous le connaissez sans doute, hein, parce que vous l'avez sans doute croisé dans un bac à soldes à la con. Et si c'est le cas, ne l'achetez pas, parce que bah de toute manière, ce jeu, tu fous dans une poubelle, il y en a 4 qui tombent. Et si jamais vous connaissez pas, bah ça ressemble à tous les 11 sur 20 de la 360, c'est-à-dire des jeux aux teintes marron-gris, souvent sous le moteur Unreal Engine 3, et qui ont rapidement fini dans les bacs de soldes parce que personne n'en voulait. Le Unreal Engine 3, c'était un moteur que beaucoup d'éditeurs tiers utilisaient à l'époque, un peu trop à mon goût. Surtout qu'ils l'utilisaient tous un peu de la même manière, c'est-à-dire pour faire des jeux dits réalistes, c'est-à-dire avec des univers très gris, très mornes, très marrons. Alors ce développement cauchemardesque, on peut y revenir, même si on va pas rentrer dans les détails. Mais on va quand même se faire un petit maxi best-of parce qu'on est gourmand. Donc Denis Dayak, il va directement se fâcher avec Internet, il va se plaindre des haters. Et du coup, il va se mettre NeoGAFADO. Les développeurs, quant à eux, ils vont beaucoup se plaindre du Unreal Engine 3. Dans le même style, en plein milieu du développement, le jeu devient d'un coup le premier jeu d'une trilogie. Le studio va encore se plaindre du Unreal Engine 3. Alors, il y a aussi un truc, c'est que dans l'équipe, personne n'est d'accord sur quelle direction doit prendre le projet. L'équipe, elle se plaint encore et toujours du Unreal... Ben non, en fait. L'équipe va faire un procès à Epic par rapport au Unreal Engine 3. Attendez... Juste, on fait une pause là. Bon, Epic Games, en 2008, c'était déjà une grosse machine. Pas autant qu'aujourd'hui, mais c'était une grosse machine. Ça produisait des Gears of War à la chaîne, ça vendait des cargo tonnes de Unreal Engine 3 à tous les développeurs. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que Silicon Knights, ils ont vraiment peur de rien. Ils vont donc faire un procès à Epic. Pourquoi ? Bah c'est que eux, ils estiment que Gears of War, ça tourne mieux que leur jeu.
Sans déconner, bah putain, là, je suis choqué.
En fait, les devs de Silicon Knights, ils se plaignaient parce que le Unreal Engine 3, il était pas aussi fluide que Gears of War, il était pas aussi beau que Gears of War, et donc, selon eux, ça voulait dire que, bah, Epic leur cachait la bonne façon d'utiliser le moteur, et donc, indirectement, essayait de saboter leur projet. Et que ce serait de la concurrence déloyale. Parce qu'avoir les bons renseignements sur comment utiliser le moteur, ça fait effectivement partie du contrat qu'ils ont signé avec Epic. Et donc, pour Silicon Knights, Epic se rend responsable des 4 ans de cauchemar qu'a été le développement de To Human. Et donc, Silicon Knights ont estimé qu'en compensation, Epic devait leur donner, bah, tout l'argent des Gears of War. Sans déconner, ils étaient vraiment en position, on va vous braquer, donnez-nous l'argent des Gears of War. Non, et les mecs sont pas nés avant la honte, hein. Ils sont nés après la honte et ils ont fait un procès à l'inventeur de la honte. Bref, To Human est un énorme bide, critique comme commercial, et le jeu va faire moins d'1 million de ventes. Moins d'1 million de ventes, dans le monde. Et là vous vous dites, bah s'ils connaissent quand même, là c'est pas de bol. Et on se demande ce qui peut leur arriver de pire, à part peut-être perdre leur procès. Alors, il y a une raison très précise à la recrudescence des jeux de super-héros au milieu des années 2000. Et oui, c'est un peu grâce au succès des jeux Spider-Man et surtout de l'adaptation de Spider-Man 2 en jeu vidéo. En fait, suite à ces succès, Activision en 2005, ils vont signer un contrat avec la maison des idées, Marvel. Faut savoir qu'avant ça, ils bossaient à la commande, c'est-à-dire jeu par jeu, ils faisaient des contrats pour chaque jeu. Et en fait, en 2005, ils vont signer un nouveau contrat. Un contrat, et c'est très marrant d'ailleurs, qui est assez précis. En résumé, ce contrat disait que tant qu'ils faisaient des jeux qui étaient offline et qui contiennent absolument des mécaniques qu'on associe plutôt à des RPG, et ben ils peuvent faire globalement ce qu'ils veulent avec les licences Marvel. Et c'est pour ça que la production des jeux Marvel par Activision va s'accélérer à ce moment-là. Et du coup, bah ça me donne envie de ressortir tous mes jeux à licence Marvel pour vérifier qu'il y a bien des mécaniques de RPG dedans. Ça me tue que ça a été précisé dans le contrat et j'ai envie de voir si c'est bien présent dans tous les jeux. Si vous avez des exemples en tête, mettez-les moi dans les commentaires, ça me facilitera la tâche pour les trouver. Bon, on retrouve Silicon Knights. À ce moment-là, eux, ils sont un peu au bout du rouleau. Ils sont en train de se remettre difficilement du shit show qu'a été le développement de To Human. À côté, ils attendent leur procès contre Epic, tout en essayant de refourguer un nouveau jeu d'horreur à Konami, qui n'en veut pas. Puis à Sega, qui n'en veut pas non plus. Et enfin, à THQ, qui lui non plus en veut pas. Ok, donc en 2011, si même THQ veut pas de ta merde, c'est qu'il faut vraiment lâcher l'affaire. Et c'est à ce moment-là que débarque Activision. Faut savoir qu'un peu plus tôt, ils avaient une licence qui marchait bien, qui s'appelait les X-Men Legends. Mais cette licence, elle a muté. Noterez, hein, pour les X-Men, c'est marrant. Et elle est devenue la licence Marvel Ultimate Alliance, qui est une espèce de clone de Diablo. Et forcément, bah, il n'y a plus de jeux X-Men. Et hors de question pour Activision qu'il n'y ait plus de jeux X-Men. En plus, à cette époque, il y a des X-Men qui se remettent à sortir au ciné, donc c'est vraiment le moment ou jamais. Et c'est pour ça que Activision, vu que tous ses studios étaient un peu pris, va contacter Silicon Knights.
Allô, Silicon Knights, vous faites rien, là? Bah, c'est-à-dire que... non.
Bon alors les mecs de Silicon Knights, ils sont pas trop chauds pour faire du super-héros. Mais ils arrivent quand même à se motiver et à trouver des idées, et en fait ce qu'ils veulent faire, c'est une espèce de jeu à la Mass Effect. Et vas-y qu'on pourra créer son personnage, et qu'on pourra faire évoluer ses pouvoirs de X-Men personnalisables, avec évidemment des choix moraux et des embranchements dans l'histoire. Scénario hyper ambitieux, arbre de possibilités infinies à la Molineux. Y a pas photo, les types, encore une fois, ils sont ultra gourmands, ultra ambitieux. Ils veulent faire le meilleur jeu X-Men possible, et ce jeu, ils vont l'appeler X-Men Destiny. Et le jeu sort. Il sort sur Xbox 360, il sort sur PS3, il sort dans une version Wii, il sort dans une version DS, et j'y ai joué. Alors, pas toutes les versions, j'ai surtout joué à la version principale, la version 3.6. En fait, aucune de leurs idées est vraiment exploitée, c'est surtout un beat'em all ultra répétitif. Tout l'aspect personnalisable, il est bidon, parce qu'en fait, il y a 4 ou 5 classes de perso. Et surtout, il n'y a même pas de création de personnages, hein. Il n'y a que des stéréotypes que tu peux choisir. C'est pas très fun à jouer, comme j'ai dit, ça devient vite répétitif. L'histoire est pas ultra intéressante. C'est ni joli, ni fluide. Fluide, non, c'est sûr, c'est pas fluide. J'en ai vu hein, des jeux ramés sur PS3, mais ça s'appelle pas ramé, hein. Ça s'appelle un slideshow. La version DS est atroce, hein, est-ce qu'il est nécessaire de le préciser, je ne sais pas. Évidemment, le jeu est un bide intersidéral, personne n'achète ce truc. Je pense qu'à la même époque, il y avait Captain America de Sega qui était sorti, et je pense qu'il a même pris des meilleures notes, et c'est mérité parce que le jeu est pas ouf du tout, hein, c'est un clone de Batman Arkham, mais il était quand même mieux que X-Men Destiny. Enfin voilà, ce jeu X-Men, c'est un jeu à licence médiocre, comme il en a existé des centaines. Et pourtant, vous savez à quel point je suis un défenseur des jeux à licence, mais voilà, qu'on le veuille ou non, des navets comme ça, bah c'est pas le premier, et c'est loin d'être le dernier. En plus de ça, Activision avait déjà planté le dernier clou dans le cercueil du jeu, puisque la semaine suivante, ils avaient déjà prévu la sortie de Spider-Man aux frontières du temps. Donc autant vous dire que Activision avait pas laissé une seule chance au jeu. Il s'est planté, évidemment, et ça aurait pu tout simplement en rester là. Bon alors on va revenir en 2009 pendant les 2 ans de développement de X-Men Destiny. En fait quand je vous ai dit qu'ils étaient pas trop chauds pour faire du jeu de super-héros, Ah, c'était un euphémisme. En fait, ils en avaient carrément rien à battre du jeu. Eux, en vrai, ils voyaient ça comme un espèce de projet secondaire pour ramener de l'argent et renflouer les caisses, en espérant pouvoir travailler sur une IP originale juste après. Dites-vous bien qu'ils étaient même déjà en train de faire la pré-prod d'un Eternal Darkness 2 pendant le développement du jeu. Mais même sans ça, il faut savoir que le projet était extrêmement mal géré et beaucoup trop ambitieux. Et effectivement, il suffit de regarder les images du jeu pour voir que ça a été rushé, que c'est un jeu qui est fait sans amour. Le but affiché étant de finir le jeu dans les temps, voire le plus rapidement possible, pour prendre l'argent et se relancer. Sauf qu'il faut ajouter à une certaine mauvaise volonté, un manque de bol incroyable. En fait, à cette époque, Disney rachète Marvel. On le sait, hein, Disney, au moment de ses rachats, a toujours un peu laissé les jeux vidéo de côté. D'ailleurs, si je ne m'abuse, Disney, un peu après, finira par fermer sa division jeux vidéo. Et au moment où Disney rachète Marvel, eh ben, c'est le budget de tous les jeux de super-héros d'Activision qui vont être réduits. Donc vous imaginez que Silicon Knights, ils sont pas ravis d'apprendre la nouvelle. Ils voulaient faire un jeu moyen budget vite fait et prendre l'argent et se casser, et ils se retrouvent avec un projet ultra ambitieux qui a d'un coup plus aucun budget. Et surtout, le jeu il doit être fini en temps et en heure, parce qu'il y aura pas de rallonge, il y aura pas de temps de développement en plus, parce que Disney il déconne zéro. Et donc Silicon Knights, ils vont se précipiter, et dans la précipitation, ils vont faire une grosse erreur. Alors on revient à la sortie de X-Men Destiny, hein, qui je le rappelle est bien sortie. Quelques semaines après cette sortie, Silicon Knights, ils vont perdre leur procès contre Epic Games. Non seulement ils vont le perdre, mais Epic Games va gagner tout ce qu'il va demander en dommages et intérêts. C'est-à-dire la modique somme de 4,5 millions de dollars de dommages et intérêts.
Allô ? Est-ce que vous avez 4,5 millions de dollars, s'il vous plaît ? Bah non.
Et Silicon Knights, ayant oublié son portefeuille à la maison et n'ayant pas ses 4,5 millions de dollars sur lui, le contrat étant rompu, Silicon Knights n'est plus dans son droit quand il utilise le Unreal Engine 3 pour son jeu, et donc Epic Games va simplement demander le retrait et la destruction de tous les exemplaires de Two Humans des magasins. Et en vrai, le problème, c'est pas tant qu'on fasse brûler des kilotonnes de Two Humans. Le problème, c'est que dans la précipitation du développement de X-Men Destiny, Silicon Knights a fait une très grosse erreur. Pour aller plus vite, ils ont développé leur jeu avec le Unreal Engine 3. Et donc, ils ont parié sur le fait qu'ils allaient gagner leur procès contre Epic, ou alors ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, et dans ce cas-là, c'était un suicide. Et c'est pour ça que quelques semaines après sa sortie seulement, il a fallu retirer des rayons et détruire absolument tous les exemplaires de X-Men Destiny. Et je crois que le plus triste, c'est que à ce moment-là, bah tout le monde avait déjà oublié l'existence du jeu. Le jeu est sorti et a été retiré des rayons et personne s'en est jamais vraiment rendu compte. Sauf évidemment Silicon Knights qui mettra la clé sous la porte dans la foulée.